sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Spectacle vivant.
Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Issa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Dali Yaha, réalisation Philippe Baudouin. Autour de moi, ce soir, Anna Segalevitch, Jean-Christophe Brianchon, Thomas Corlin, notre affiche Songs de Samuel Achache au Bouffe du Nord, Laïka, texte mis en scène d'Ascano Celestini à voir sur Culture Box. Je demande la route de Stéphane Ayar et Rukyata Wedraogo Lucerner et puis un coup de cœur d'Anna Segalevitch pour Dorine de David Gieselson au Théâtre de la Bastille. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour le spectacle Erwart ou les derniers jours de Friedrich Nietzsche. C'est au rond-point à Paris, des places à gagner pour vendredi 11 janvier à 21h. Et nous ouvrons avec Songs, actuellement à l'affiche des Bouffes du Nord. Samuel Achache a signé ou co-signé la conception et la mise en scène du Crocodile Trompeur, de Fugue, de spectacles qui ont connu de grands succès, qui ont beaucoup tourné. Sébastien Dossé dirige Correspondance, l'un des meilleurs ensembles français de musique baroque. Les deux artistes unissent donc leurs talents et leurs curiosités en créant Songs. On va entendre beaucoup de musiques anglaises du XVIIe siècle sur scène, des instrumentistes, des comédiens, des comédiennes, des chanteurs, des chanteuses. Les uns et les autres font un peu tout cela en même temps. La musique qui se mêle au théâtre, qui épouse les états d'âme d'une jeune femme qui fuit justement sa noce juste avant de dire oui et qui va, nous allons avec elle, entrer dans son esprit, remonter le fil de ses souvenirs pour y chercher des raisons de dire oui, peut-être.
Ah, attendez, non, pardon, excusez-moi, ne partez pas, c'est juste que je vais vous le donner, je vais vous le donner, comme ça, ce sera plus simple. Je l'avais rangé, je ne trouvais plus, on ne devrait jamais rien ranger, et on ne trouve plus rien après. Attendez, oulala, c'est très long, attendez, je vous le donne, comme ça, c'est plus simple, ça ne sert à rien de tourner autour du pot, il faut être clair dans la vie, alors je vous donne mon cœur, qu'on en parle. Attendez, partez pas, s'il vous plaît, juste un petit moment, hein, je le trouve. Attendez, il est... Partez pas, hein. Ça va pas prendre mon temps, c'est idiot, on devrait jamais rien ranger. Attendez, partez pas, juste. Ah.
Pour cet extrait de Songs dans lequel on aura entendu que le théâtre et la musique effectivement sont mêlés, puisque nous avons entendu cette jeune femme, comment s'appelle-t-elle déjà?
Sarah Le Picard.
Oui, cherchez le nom du personnage, merci Anna Segalevitch.
Ah, Sylvia.
Merci. Et l'autre c'est
Viviane.
Et c'est
Margot Alexandre.
Bon, nous redirons ce nom plusieurs fois ce soir. Jean-Christophe Brianchon pour commencer sur Songs.
Oui, bah c'est une pièce musicale qui, comme on l'a rapidement dit, traite de la mélancolie, de la tristesse et du rapport que chacun des personnages mis en scène entretient avec ses sentiments. Concrètement, ça met en scène bon, pour faire simple, deux sœurs au moment du mariage de l'une des deux, qui d'une certaine manière vont s'affronter, ou en tout cas vont affronter leur façon de vivre le sentiment, puisque Sylvia, dont c'est le mariage, vit le sentiment de manière assez affectée et souhaite vivre et ancrer son quotidien dans le souvenir d'un passé qu'elle ne cesse de pleurer, et sa sœur Viviane, elle, inversement, vit d'une certaine manière dans le déni de ses tristesses passées. C'est donc une construction assez simple, assez didactique finalement, mais qui est assez élégamment, assez habilement, je pense, complexifiée par non seulement l'écriture, mais aussi par la scénographie et par l'humour qui, selon moi, pour une fois, puisque je suis pas forcément très client des spectacles de Samuel Achache.
Vous n'avez pas d'humour, rappelons-le, quand même, voilà, pour ce début d'année,
c'est important de le dire. Hein. C'est absolument ce qui me caractérise. Et bien souvent, du coup, jusqu'alors, j'ai été un petit peu déçu par l'utilisation de l'humour dans les pièces de Samuel Achache. Ici, l'humour est utilisé assez habilement pour souligner le propos, mais aussi, donc, je pense, la narration, l'écriture qui mêle à la fois l'interprétation des rôles par les personnages, mais aussi la narration. Les personnages peuvent être à la fois jouants et récitants, d'une certaine manière. Et la scénographie, donc, est quand même très belle, à mon sens, puisque le plateau débute en étant recouvert d'un tissu qui petit à petit se dévoile.
Un voile blanc.
Et puis un voile blanc.
Une plongée.
Exactement.
Vous avez dit quoi ?
Une plongée.
Très bien.
Qui rappelle d'ailleurs le
six lettres.
Caboulox. qui rappelle le tissu d'ailleurs qui recouvrait la scène dans Traviata l'an dernier au Bouffes du Nord également.
C'était
pas du tout de Samuel Achache.
Non, c'était avant qu'elle me le dise, et effectivement, elle n'avait pas tardé.
Mais c'était un petit peu le même. Enfin bon, c'était un spectacle musical.
Il y a une actrice commune qui était dans le Crocodile Trompeur, qui était Judith Chemla.
Exactement. Le lien. Et cette scénographie, je trouve, dévoile assez bien l'idée de la façon dont les personnages vont chacun à leur tour tenter de voiler puis dévoiler leurs sentiments
mots, là,
petit à petit,
jouer, très habile,
voilà, exactement, jouer
très
avec
habile.
Les sentiments comme eux.
On dévoile
eux, exactement.
Et on se retrouve. Bienvenue dans l'esprit de ma sœur.
Hein. Exactement, au cœur de l'orchestre de sa sœur, au cœur de l'orchestre du cœur. De Sylvia, donc avec l'accent chantant de sa sœur Viviane, voilà, qui incarnera le déni.
De sa sœur dans sa tête, parce qu'il faut quand même expliquer à Anna Segalevitch que dans la tête de Sylvia, non.
Oui, Sylvia.
Sylvia, pardon, je m'emmène avec ça. Sa sœur n'est pas tout à fait comme sa sœur est dans la vraie vie.
Oui.
D'où cet accent que je n'ai pas employé à mauvais escient.
C'est intéressant parce que vous dites, Jean-Christophe, que c'est assez didactique et simple comme dispositif.
Sur le papier.
Sur le papier, oui, mais moi je ne trouve pas en fait, parce que je trouve qu'il y a mille interprétations possibles de ces histoires. Vous avez vu cette histoire-là, moi j'en ai vu une autre et je pense qu'on peut en voir beaucoup, beaucoup d'autres. Parce que est-ce qu'on est au mariage réellement de Sylvia, ou est-ce qu'on est dans la mise en scène de Viviane du mariage de sa sœur, ou est-ce qu'on est à l'enterrement de Sylvia, ou
moi
est-ce
que... perdu, là.
Enfin, il y a beaucoup de choses. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est pas du tout simple comme
Nolan,
c'est pas du tout simple comme dispositif, et c'est justement c'est très ouvert, et c'est une des qualités, c'est que le sens est ouvert dès le départ. On sait pas exactement où on est. Pourquoi la sœur Viviane a un accent du sud? Parce que donc Sylvia, qui est assez angoissée, aimait beaucoup la directrice de la colonie de vacances quand elle était petite, qui était une femme qui avait un accent qu'on pourrait imaginer être du sud, c'est ce qu'elle dit, et qui était une femme assez forte. Et donc, elle aimerait que la directrice de la colonie fusionne avec sa sœur pour être en gros le modèle qui guide ses pensées. Donc, Viviane endosse ce costume. Cette première scène entre les deux sœurs, pour moi, elle est très révélatrice. Elle est très significative parce qu'elle pose vraiment les fondamentaux de cette façon de faire du théâtre. Qui est que Sarah Le Picard entre en scène, elle est angoissée, elle est rejointe donc par sa sœur Viviane. Elle est aux toilettes, Viviane lui dit « Écoute, sors des toilettes, maintenant tu sors des toilettes !» Il n'y a pas de toilettes, c'est des toilettes imaginaires. Et vont commencer un échange entre
non, on va revenir sur ce concept de toilettes imaginaires.
On imagine qu'elles sont aux toilettes, je veux dire, il n'y a pas de porte, quoi. Il n'y a pas de lunettes de toilette, enfin, de cuvette, enfin, il n'y a pas de toilette.
Non, arrêtez,
bon,
autre chose.
Ok, j'arrête, pas autre chose. Voilà, et donc, dans cette première scène, alors c'est un truc... J'ai remarqué ça souvent dans leur spectacle, la première scène est très forte. Ils donnent le ton comme ça au départ.
Vous voulez dire qu'après, ça s'affaiblit ?
Non, pas du tout.
C'était assez similaire dans la pièce de Jeanne Candel le mois dernier.
C'est un peu du Bertrand Blier. Oui, ah, c'est un compliment si pour moi.
Hein. Oui, bah oui.
On commence
moi
très
aussi,
fort.
Hein, ouais. On commence très fort tout de suite, mais pour moi, ça reste fort pendant tout le spectacle, hein, parce que je trouve que c'est un spectacle vraiment très très réussi. Et donc, cette première scène très forte, on voit beaucoup de choses. Déjà, on voit le plaisir du jeu. Qui est là, donc on joue avec les codes du théâtre, adresse directe, indirecte, virtuosité dans les rapports, pas mime, parce que les toilettes sont imaginaires, mais bon, enfin en tout cas, enfin, vous avez compris ce que
oui.
je voulais dire, j'espère.
J'espère.
Voilà.
J'espère.
Et j'espère on a aussi une chose qui est très importante dans l'univers de Samuel Hachache et de Jeanne Candel quand ils font des spectacles ensemble, mais là il est tout seul, donc de Samuel Hachache, qui est l'enfance, qui est très présente, et quand elles se retrouvent toutes les deux dès le départ, à quoi elles jouent ? Ben elles jouent à remonter dans les souvenirs de leur enfance. Et c'est comme ça qu'on rentre dans le spectacle. Et leur rapport, leur complicité, elle est immédiate. Je trouve, en 5 minutes, on a vraiment un rapport sororal qui s'installe. Et l'une angoissée, l'autre tuteur un peu de cet univers familial composé de la mère et des deux sœurs. Et puis, Sarah Le Picard va plonger, en fait, va rentrer à l'intérieur de sa robe de mariée, qui va dévoiler donc cette plongée. Et là, on va rentrer dans la fiction, donc l'esprit de Sarah Le Picard, mise en scène par sa sœur Margot Alexandre. Voilà, moi...
Alors, et voilà, non, j'arrête de parler. Okay. Parce qu'on n'a pas encore entendu Thomas Cornard.
Excusez-moi.
Alina Segalevitch, je reviendrai bien sûr vers vous. Thomas.
C'est assez intéressant parce qu'on se rend compte qu'on parle tous un petit peu de la pièce de manière très différente parce qu'elle est vraiment très riche. Alors je tiens à préciser que je partais d'un très mauvais a priori parce que j'avais pas aimé Fugue d'Hachache au Festival d'Avignon il y a assez longtemps, qui était effectivement très bancale et une utilisation de l'humour qui était
je
un peu inutile.
Pas. Moi,
je et là, j'avais je trouve que ce travail est parfaitement éblouissant et même parfois, je vais loin, qu'il touche au sublime. J'y vois plutôt une sorte de comédie psychanalytique, surtout très très forte, parce qu'il y a tout un maillage, un jeu de pistes psychanalytique qu'on peut voir, on peut un peu s'amuser à voir un petit peu tous ces motifs dans la pièce. Par exemple, il y a ce moment où donc le personnage de Sylvia nous explique qu'elle a traversé, bon, donc sur son chemin, elle a vu plein de verpents. Donc des verpents sont des vers et des serpents dressés sur son chemin qui font semblant de l'ignorer. Et en fait, on comprend après que ça fait écho, en fait, à tous ces personnages, enfin, tous ces hommes qui l'ont rejeté. Donc il y a toutes ces expériences traumatiques qui reviennent. Il y a aussi un moment, elle se marie avec une veste vide recouverte de cire, qui est clairement, en fait, le personnage du père absent qui a été évoqué avant. Et il y a quand même ce motif, donc, de la tablette de cire au cœur de la pièce qui constitue vraiment une séquence performative qu'on peut complètement prendre indépendamment. Sincèrement, un climax, cathartique dans la pièce. Vraiment, je me suis oublié. Il y a un moment, je savais plus où j'étais vraiment dans cette pièce. Qui, en fait, à la fois symbolise l'expérience, le ressenti, plein de choses, qui donc, en fait, un motif emprunté apparemment à Platon. Et à part ça, il y a aussi une autre chose que j'ai trouvé vraiment brillante sur la scénographie, finalement. C'est que, finalement, Samuel Hachache arrive à organiser, enfin, à créer un espace mental qui est à la fois un tribunal personnel et aussi une zone dans laquelle on va traverser plein de stades de la dépression, hein, quand même, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il y a une sorte de suspension qui est époustouflante, je sais pas vraiment comment vous l'avez vécu, mais une sorte, on est bien dans cet espace. Il y a un lâcher prise, j'aime beaucoup les moments où finalement l'orchestre ne joue pas, et donc ils sont là, moi je sais pas quel jour vous l'avez vu, mais ils sont en train de manger par exemple de la, je sais pas, c'était le, comment on appelle ça, la galette des rois, ils mangent ils boivent du cidre, etc.
Vous êtes donc allé hier,
ça a joué deux fois effectivement. Et en fait,
à Paris, ça a joué avant, à Paris, ça a été créé ailleurs.
Et donc au final, je trouve que la pièce, c'est un petit peu comme une sorte de fruit à plusieurs saveurs. Donc il y a l'utilisation d'abord de cet humour qui est un peu régressif, mais qui est hyper bien utilisé et qui est franchement, enfin, il faut le préciser, on se marre énormément. Et qui d'ailleurs communique très bien avec les thèmes de la pièce. Et puis de l'autre côté, il y a cette amertume de l'autre côté. Donc il y a le poids personnel, les blessures narcissiques, un grand vertige existentiel et ces grands moments de désespoir qui sont magnifiquement soulignés d'ailleurs. Enfin, amplifié, je dirais, par l'orchestre baroque, qui n'est pas du tout littéral, et c'est assez appréciable.
Alors, le spectacle a été créé au théâtre de la Croix-Rousse à Lyon, il a été joué à Valence, ensuite à Lorient, à Caen, et il y aura d'autres dates, je vous donnerai tout à l'heure, évidemment, à Quimper et à Tarbes, après le passage parisien. Alors, je suis un tout petit peu moins enthousiaste que vous. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé Fugue, pour
moi
parler
aussi,
du précédent spectacle de Samuel Hachache, que j'ai vu deux fois, et avec, je trouve qu'il y avait une profondeur très grande, et en même temps, un humour complètement... foutraque qu'on retrouve ici. Moi, j'aime beaucoup la dimension absurde qu'il y a dans les spectacles de Samuel Hachache. J'aime aussi infiniment la musique qui est quand même jouée ici magnifiquement par l'ensemble Correspondance. J'étais pas tout à fait certain parfois de la façon dont donc musique et théâtre étaient absolument cousus. Bon, j'ai eu quelques, ça m'a semblé forcé à certains moments, tout comme les déplacements des musiciens vers la fin du spectacle. Bon, je me disais, est-ce qu'il faut occuper quelque chose pour le spectateur, il faut pas qu'il s'ennuie, alors ils vont changer de place. J'ai pas tout à fait saisi certains des déplacements, mais enfin je mets des petits bémols et je sens qu'Anna a déjà envie de me répondre sur la musique, mais quand même souligner Margot Alexandre, que j'avais déjà vu dans un très beau spectacle que peu de gens aimaient, Les Grands, de Fanny Deschaillé, sur un texte de Pierre Alféri. Moi, j'avais beaucoup aimé ce spectacle. Elle était déjà là, Margot Alexandre, et elle est quand même absolument... Enfin,
toutes les deux. Hein.
Toutes les deux, mais ouais. Le fait est que la plus grande part, me semble-t-il, pour moi, de la réussite du spectacle, repose sur Margot Alexandre, et qui a un abattage, une présence folle. Et évidemment, c'est le contrepoint avec Sarah Le Picard, qui... en petites choses fragiles, qu'elle fait admirablement bien. Mais moi, j'étais assez époustouflé par Margot Alexandre, ce spectacle. Anna, vous vouliez me répondre pour la musique?
Oui, pour la musique, je suis d'accord avec vous. Mais moi, je trouve que les deux sont très, très bien, parce qu'elles sont vraiment comme deux petites toupies qui virevoltent comme ça dans cet espace avec les musiciens. Donc, pour en venir justement à la musique, c'est vrai que le théâtre est très, très fort, là. Très, très fort. Alors, j'ai un peu réfléchi. Oui, déjà, il y a une chose. Oui. La première chose, c'est que on a eu un petit problème le soir où on y est allé, parce que les surtitres n'ont pas fonctionné. Ouais. Voilà. Donc, je pense que vous, Thomas,
mieux,
vous les avez vus avec
les surtitres. Oui, je les ai vus, mais je trouve ça tant mieux qu'ils ne fonctionnent pas trop.
Ah bon? Et ben, alors, moi, je pense que c'est bien qu'il y en ait.
Moi, je ne sais pas, parce que je n'ai pas vu avec les surtitres. Mais... du coup, l'imbrication texte-surtitre...
On comprend un peu l'anglais, quand même.
Oui, mais ça... C'est moins fluide que quand on voit
phrases.
Les choses.
C'est le principe du baroque, il répète 14 fois les mêmes phrases et on comprend un peu le sujet.
Oui, c'est vrai, on comprend le sujet. Mais quand on
c'est
voit
vraiment
les choses écrites...
sur une question de mécanique.
L'imbrication. Mais alors, il y a plusieurs choses. Parce que c'est vrai que dans Fugue, ce qui était très très réussi, c'est le rapport texte et musique.
Et
dans Crocodile Trompeur. Pourquoi? Parce que dans Fugue, par exemple, on avait l'impression que la musique arrivait quand les mots ne pouvaient plus dire les choses. Et donc, il y avait vraiment le pouvoir salvateur et consolateur de la musique, et puis qui disent que, voilà, ce que la voix, enfin le texte, ne peut pas dire. Donc, il y avait une sorte de prolongement.
Sans faire de jeu de mots, c'est plus une histoire de correspondance,
voilà,
là, véritablement.
C'est plus une histoire de correspondance où ça s'enchaîne l'un après l'autre. Alors, il y a une chose, c'est que ce ne sont pas les mêmes interprètes.
Bien sûr.
Ça
bien
change
sûr,
aussi
sûr.
La chose. Dans Fugue, c'est, enfin, Annelise Emburger, Léo Antonin Lutti, c'était eux qui chantaient. Ils jouaient et ils chantaient. Là, on a les actrices d'un côté et les musiciens de l'autre. Mmh. Avec cette figure étrange qui est Lucille Richardot, qui est une alto absolument magnifique, qui a une voix vraiment de velours, qui a un timbre absolument magnifique, une diction aussi remarquable. Mais donc avec qui elle est entre les deux parce qu'elle fait la figure de la mère. Mais avant que le personnage, on comprenne, parce qu'elle est très raide, elle a quelque chose de rigide,
très, très drôle,
de sévère.
Très drôle.
Oui, très drôle.
Elle s'effondre, après son premier air, elle est sur un banc, elle s'effondre de plus en plus.
Oui,
c'est Jacqueline Maillan quand
oui,
même.
Oui, oui.
Aussi. Non mais c'est vrai.
Oui, mais pour que ça rentre réellement dans la narration, dans la dramaturgie et dans le spectacle, je trouve que ça met un petit peu de temps.
Oui,
mais quand ça met du... Enfin, quand ça se met en place, là pour le coup, je trouve que c'est très, très fort.
Jean-Christophe Briançon.
Moi je pense qu'il y a effectivement un problème avec l'utilisation de la musique, mais qui, selon moi, est très lié à, je pense d'une certaine manière, un point d'achoppement dramaturgique qui arrive au bout de, je dirais, 45 minutes, une heure de spectacle, où le propos ayant été édicté, et finalement assez clairement édicté, la musique... au bout d'un moment, ne peut plus être que le point de support ou le recours aux mots qui n'ont plus lieu d'être. Et donc finalement, alors qu'au départ, la musique est assez bien imbriquée avec le propos et avec la dramaturgie, elle finit par ne plus être qu'une sorte de point d'illustration de ce qu'on nous montre et qui, évidemment, du coup, n'arrive pas toujours, selon moi, de manière forcément heureuse ou en tout cas très appuyée par moment.
Pas d'accord, Thomas Cornard.
Bah, justement, je crains très souvent dans le théâtre musical qu'il y ait cet effet un peu illustratif assez désagréable de la musique au théâtre. Et là, en l'occurrence, je trouve que justement, du fait que ce ne soit pas trop littéral, ça donne, la musique donne une portée au malheur finalement assez banal hein, de ce personnage de Sylvien. Et également, en fait, ça me rappelle un petit peu, c'était dans Maudite Aphrodite, je crois, de Woody Allen, où il y avait donc un chœur grec, bon là, en l'occurrence, c'est un ensemble baroque, qui donne, c'est un peu la même utilisation, parce que ça donne un petit peu un regard empathique et parfois même ironique, un peu cruel, sur le sort de Sylvia, et ça élève, je trouve, la pièce vers autre chose que ce qu'elle pourrait assez simplement être.
Très bien.
Et surtout, c'est très beau aussi. Hein. Faut quand même.
Ah, mais c'est aussi magnifique. Moi, je m'y connais. C'est quand même une chance.
Maroc, c'était sublime.
De voir l'ensemble correspondance dans cette aventure-là. Bon, Anna Segalevich, un dernier mot.
Oui. J'ai beaucoup de choses à dire, mais.
Mais après aussi, voilà, vous aurez d'autres choses à dire, je suis sûr.
Souligner moins. Souligner. Je vous dis franchement.
Bon.
Souligner. Aussi, encore une fois, je trouve qu'il y a beaucoup d'audace dans cette façon de faire du théâtre. C'est quand même très très difficile ce qu'ils tentent, parce que il y a à la fois beaucoup d'humour, comme vous le disiez, le fait de décaler tout le temps les choses, et en même temps d'oser vraiment du romantisme, du premier degré, de la poésie, et le fait de se mettre à nu. Ils ont une façon aussi, je trouve, très élégante de générer des émotions avec beaucoup de délicatesse. Enfin.
Non, mais alors là, je vous soutiens à plein parce que je trouve qu'on est dans un moment pas très joyeux ni très inventif sur les scènes françaises et que des gens comme eux.
Mais oui.
Et on peut se féliciter que le collectif La Vie Brève vient d'être nommé à la direction du théâtre de l'Aquarium. Donc, La Vie Brève, il y a beaucoup, beaucoup de talents, mais notamment Samuel Achache et Jeanne Candel.
Et puis il y a un rapport.
Il y a un lieu pour développer ce travail sur le théâtre musical qui est quand même très riche.
Qui est très riche, et puis c'est un rapport tellement alerte à la scène. Ils écrivent en improvisant, hein. Et donc on a vraiment, je trouve, tous les bénéfices sans les écueils de ça. C'est-à-dire que c'est vraiment bien écrit.
Oui, parce
et
qu'il y a
même temps,
plusieurs registres d'écriture, on n'a pas parlé de cela, mais il y a avec toute cette question de dialoguer, mais aussi il y a des moments de récit. C'est très beau cette façon de passer d'un registre de langue à un autre. Et, enfin, ça fait partie des qualités, Jean-Christophe.
Non, je voulais pas forcément rebondir exactement là-dessus, mais simplement
rebondir si vous voulez,
puisque Jeanne Candel, qui fait donc partie du collectif La Vie Brève avec Samuel Achache, a aussi créé la semaine passée un spectacle qui s'appelle L'Oreille de Denis à la Pop et qui est amené un spectacle pour jeune public qui est amené à tourner entre autres à la Comédie de Valence dans les semaines qui viennent et puisqu'on soulignait
l'intérêt de Comédie de Valence qui les soutient tous deux depuis plusieurs années.
Exactement.
Des artistes associés me semble-t-il.
Oui. C'est exactement dans la même veine, toujours ce théâtre musical dont on parle et qui est assez rare. C'est un spectacle qui est aussi très intéressant et très beau.
Et je crois qu'ils sont associés aussi à l'Opéra Comique.
Allez savoir.
J'ai lu ça quelque part. Hein.
Bon, que le comique nous contacte, si on en a envie, pour qu'on en sache davantage. Bon, pour l'instant, Songs, c'est au Bouffe du Nord jusqu'au 20 janvier, puis quelques dates encore à suivre, 21 et 22 mars à la scène nationale de Quimper, 27 mars à la scène nationale de Tarbes, et puis on espère que d'autres dates suivront dans les saisons prochaines, parce que ce sont des spectacles en plus qui ont de longues vies, les spectacles souvent créés par Samuel Achache ou et avec Jeanne Candel. Donc c'est tout ce que l'on souhaite ici. À suivre, dans la dispute, Laïka, Je demande la route et Dorine.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Suite de cette dispute avec Laïka, texte et mise en scène d'Ascanio Celestini à voir sur Culture Box jusqu'au 21 mai, ce qui permet à l'ensemble de la population équipée d'Internet d'y avoir accès. Bonne chose puisque le spectacle a été l'un des succès de ce début de saison sur les planches. Alors je vais peut-être pas me risquer à le résumer. Peut-être qu'un extrait sera plus éclairant pour entendre de quoi il s'agit.
T'es allé au supermarché, Pierre? C'est gentil d'aller au supermarché, Pierre. Moi, si j'allais au supermarché, Pierre, je reviendrais avec que des crasses, tu sais bien. Des fois, je vais au supermarché, je m'arrête juste avant, je fais tout à fait autre chose. Alors que toi, quand tu dis que tu vas au supermarché, t'es quelqu'un de déterminé, Pierre. Le clochard était là? Le clochard qui fait la manche sur le parking du supermarché, il était là et il dormait, pas vrai? Je sais qu'il dormait, le clochard, Pierre. Il dort toujours, le clochard. Tu dois le réveiller quand tu vois qu'il dort, le clochard, Pierre. Tu dois lui dire qu'on peut pas dormir et faire la manche en même temps, c'est impossible. Explique-lui au clochard. Dis-lui que, déjà, les gens ne laissent pas d'argent à quelqu'un qui est propre et réveillé, mais alors à quelqu'un qui dort et qui est ivre de la veille. Explique-lui au clochard, Pierre. Dis-lui qu'il doit regarder les gens qui sortent du supermarché. Explique-lui. Il doit les regarder droit dans les yeux. C'est une technique simple, élémentaire, presque infaillible. Si tu regardes quelqu'un, il te regarde. C'est un peu comme à l'école. Si t'as pas étudié, tu te caches la tête sous le banc. Mais si t'as étudié ce jour-là, même si c'est le seul jour sur la semaine, sur le mois, sur l'année, si t'as étudié, le professeur, tu le regardes. T'espères qu'il t'interroge. C'est ça qu'il doit faire, le clochard. Il doit regarder les gens qui sortent du supermarché droit dans les yeux, Pierre. Pas avec un air de supériorité, mais pas non plus de subalternité. Il doit les regarder d'égal à égal. Il doit les regarder un peu comme s'il leur disait « Comment est-ce que... » Il doit pas leur dire, Pierre. Il doit le penser très fort. Il doit les regarder un peu comme s'il leur disait « Comment est-ce que tu dépenses ton argent? Tu préfères t'acheter un paquet de cigarettes? Je vaux moins qu'un paquet de cigarettes. Un paquet de 30 ou un paquet de 20? Je veux moins qu'une cigarette offerte ou qu'une chinée, je veux moins qu'un mégot déjà fumé. C'est ça, Pierre, explique-lui au clochard. Il doit regarder les gens qui sortent du supermarché droit dans les yeux. Pas avec un air de supériorité, mais pas de subalternité, d'égal à égal. Et il doit penser, je veux moins qu'un paquet de cigarettes, un paquet de 30 ou un paquet de 20. Je veux moins qu'une cigarette offerte ou qu'une chinée, je veux moins qu'un mégot déjà fumé. Et puis si on a un peu d'argent, Pierre, laisse-lui un peu d'argent au clochard. Mais avant de le réveiller, hein. Pas le réveiller, faire ton cinéma, lui montrer que c'est toi qui lui laisse de l'argent en faisant du bruit avec les pièces et le gobelet. Non, Pierre, non. C'est comme tu dis, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Que la main droite ne sache pas ce que fait la gauche. Mais la gauche non plus, elle ne doit pas casser les couilles à la droite, Pierre. C'est réciproque, non. Pierre, la vieille était là. Je l'aime bien, la vieille, Pierre. Cette vieille, quand je la vois, cette vieille, quand je la croise, quand je lui parle, même quand j'y pense, elle me fait penser à la Madone, Pierre. Toi, tu me diras que la Madone était une jeune fille. Mais tu sais, Pierre, tout bien réfléchi, une jeune fille vierge qui accouche, ou une vieille femme ménopausée qui tombe enceinte, pour moi, le miracle elle-même.
C'est David Murgia qu'on vient d'entendre, qui est non pas seul en scène, mais seul à parler, puisque l'autre interprète de ce spectacle présent sur le plateau, c'est Maurice Blanchy, qui joue de l'accordéon. On entendra une autre voix, c'est la voix de Yolande Moreau, qui double l'accordéoniste, qui est tout à fait logique. Laïka, alors on a peu entendu cette écriture d'Ascanio Celestini. Anna Sigalevitch, premier regard sur cette pièce qu'on peut voir sur Culture Box.
Oui, et que moi j'ai vu sur Culture Box, hein. Je le précise, je ne l'ai pas vu en vrai. Donc je l'ai vu sur Culture Box. Je trouve que c'est un spectacle qui a beaucoup de force. Bon, voilà, c'est une fable sociale, politique, militante, mais qui réussit à éviter beaucoup d'écueils. Parce que même si parfois le propos est un peu outrancier, il y a quelques lourdeurs, il y a quelques moments que je trouve un petit peu excessifs, mais ça n'est pas manichéen. Et donc on entendait David Murgia, qui est quand même un acteur complètement hallucinant dans ce spectacle. On entend son débit très 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 rapide, donc il est comme ça logorique pendant plus d'une heure. L'accordéon joue un rôle très important dans le spectacle parce qu'il a une façon de rythmer, de donner de l'espace, de donner de l'air, de donner de la poésie aussi. Là pour le coup c'est pas non plus du tout illustratif, hein, musicalement. Il y a notamment un moment qui je trouve vraiment très beau où David Murgia raconte la vie des manutentionnaires africains qui travaillent dans un entrepôt et donc il y a l'accordéon derrière et on est dans une forme de slam qui fait penser à du Brel, quoi. Ça s'accélère et il y a une vitalité, une tonicité dans sa façon de dire les choses qui n'est jamais nerveuse. C'est-à-dire qu'il arrive à allier les deux. David Murgia, c'est quelque chose de très rapide, de très tonique, avec une vraie ferveur, il est plus que dynamique, et en même temps, on entend tout ce qu'il dit, c'est très fluide dans le propos. Donc il est en scène, donc seul au départ, de dos, et puis donc au début, voilà comment commence le spectacle, de quoi on parle. Donc il s'agit de Dieu, mais il s'agit de l'existence de Dieu, mais il s'agit aussi de Stephen Hawking, qui lui nie l'existence de Dieu. Mais le problème, c'est que Dieu a puni Stephen Hawking de nier son existence parce que il est donc handicapé. Mais bon, Steve Jobs a quand même réussi à faire dire des choses à Stephen Hawking puisqu'il a créé un ordinateur qui peut le faire parler, mais Steve Jobs a été puni pour ça parce qu'il a eu le cancer. Voilà. Donc ça commence comme ça. Donc la question de Dieu est au centre du spectacle. Est-ce qu'il y a un Dieu, est-ce qu'il y a une justice, est-ce qu'il y a pas de justice? Bon, voilà, la réponse on peut s'en douter.
Ah, on personnages pas à la fin du spectacle.
Comment?
On ne l'a pas à la fin du spectacle.
Non, on ne l'a pas à la fin du spectacle.
Non, je préviens parce qu'il pourrait y avoir des déceptions.
Oui, voilà. Non,
faut-il
non,
croire
non,
en Dieu à l'essence de
spectacle. C'est pas un spectacle à suspense, sans effet, non. Voilà, mais donc il y a toute une galerie de personnages comme ça qui sont croqués. Il y a une prostituée éthique, il y a une vieille qui croit pas en Dieu parce qu'elle a pas le temps de prier. Il y a donc ces manutentionnaires africains, il y a un clochard, il y a beaucoup de gens qui sont tous... Enfin, en fait, j'allais dire incarnés, mais non, ils sont pas incarnés par David Murgia. En fait, il leur donne de la voix. Et ce qui est beau, c'est qu'il ne cherche pas à les incarner, mais il cherche à les faire entendre.
Thomas Corlin, sur Laïka.
Alors effectivement, on peut pas nier donc la, on va dire la virtuosité de l'exécution. Bon, ça force le respect. Il y a même la tête qui nous tourne à force de l'entendre plier, déplier ses histoires. C'est sportif, c'est fulgurant. Je rapprocherais même ça à certaines branches de la poésie performance, même si en l'occurrence ça parle plutôt donc du théâtre narration, théâtre récit, qui est plutôt un courant qui vient des années 80. J'ai beaucoup pensé au débit de Mark Zuckerberg dans le film de David Fincher, Social Network, très 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 régulièrement, et aussi à Perec, aussi dans la manière de cette manière d'épuiser un lieu, parce que quand même c'est une photographie d'un lieu, c'est-à-dire son immeuble et ses alentours, et puis après il fait des zooms et des dézooms, et un peu cette espèce de raconteur omniscient comme ça, avec l'ironie aussi que parfois il se fait passer involontairement pour aveugle. Alors sur le contenu après, je pense que ce que j'en retiendrai plus que la diatribe militante justement, c'est cette espèce de grande bonté mystique justement que vous évoquez, Anna. Il remet un petit peu tout le monde au même niveau à l'échelle de l'univers, et donc il se lance dans des envolées métaphysiques. Donc il y a la voûte céleste, il y a toutes ces histoires de Big Bang, de théorie du chaos. Et c'est peut-être justement l'aspect qui est le plus lié aussi avec cette figure du conteur, de sage un peu délirant. Néanmoins,
un peu
malgré
aussi, hein,
et christique complètement. Et malheureusement, le seul chose, et même si ça gâche pas le plaisir du spectacle, parce que quand même, même moi aussi, je l'ai vu sur Culture Box, ça gâche pas parce qu'on est pris, c'est sûr. Mais j'ai trouvé ça un petit peu daté. Je pense que c'est lié au registre justement du théâtre récit, un peu misérabiliste et dans l'émotion sur son approche, et voire même parfois. Mais c'est encore une fois inhérent à l'exercice, légèrement cabotin sur l'exécution au bout d'un moment. C'est-à-dire que, bon, justement, la prostituée savante, la morale populaire, c'est un peu des figures et un registre dont l'efficacité me semble un petit peu... Enfin, qui s'est un petit peu étiolé avec le temps et qui folklorise pas mal aussi son sujet. Et alors j'ai pas mal pensé pour le bon côté à l'incendie, le morceau de Brigitte Fontaine et Areski, mais de l'autre côté aussi j'avais un petit peu l'impression d'être bloqué dans une soirée slam un peu trop lyrique sur fond de chansons engagées des années 90. Il y a un ton assez démonstratif, et je pense que c'est aussi l'accordéon qui joue là-dedans. Mais après on peut pas résister à ce spectacle.
C'est un choix esthétique, enfin,
c'est un domaine, mais on peut pas résister. Et cette petite scène très efficace, très très simple, avec ses cajots, un rideau et des lampicats, et Arte Povera sert très très bien, il l'utilise vraiment à bon escient. Bon. Mais on ne peut pas résister, je trouve, à Laïka.
Est-ce que vous avez résisté, Jean-Christophe Briançon?
Je suis tout à fait d'accord avec Thomas, en fait. Je pense que sur le plan formel, effectivement, il est absolument impossible de résister à ce spectacle. La mécanique est tellement huilée, on ne peut que se faire abattre par la pièce qui nous passe dessus. C'est quand même remarquablement pensé, interprété, effectivement scénographié aussi, parce que même si elle est simple, cette scénographie quand même fonctionne, mais... Bien qu'elle fonctionne, elle participe aussi à tous les points de réserve que je peux avoir sur cette pièce. Le premier point de réserve étant avant tout le rapport dans le texte. Mais alors, du coup, ce n'est pas purement théâtral. C'est sur le propos, le propos du texte qui nous est débité. C'est le rapport, on va dire, que le micro entretient avec le macro. C'est-à-dire que perpétuellement, les petites gens sont mis en parallèle, effectivement, d'un discours, comme on le disait, sur Dieu, etc. Bon, alors, ces petites gens qui tous se trouve être dans le fond d'une certaine manière des âmes formidables, ou en tout cas, si ce n'est formidable, en tout cas attendrissantes et touchantes, et des âmes qui finalement ne pâtissent de rien d'autre que le destin qui s'abat sur eux, en fait. Ce Dieu dont on parle, dont on ne sait s'il faut croire en lui ou non, et bien finalement c'est lui, c'est ce Dieu, c'est cette voûte céleste qui, comme il le dit à plusieurs reprises, est en train de s'affaisser, voilà, qui s'abat sur eux et qui de toute façon ne pourra rien faire d'autre que de finir par les tuer, ou en tout cas les amoindrir et amoindrir leur beauté. Pour moi, c'est assez problématique, parce que bon, déjà, il y a une certaine forme de déclinisme un peu poétique, hein, qui me semble bon, déjà, avec lequel je suis pas forcément d'accord, et qui, en plus, me semble un petit peu éculé aussi, mais qui, au-delà de ça, transforme cette fable sociale, d'une certaine manière, en un propos qui, à l'origine, se voulait politique, et qui finalement se retrouve réduit, c'est assez paradoxal, mais réduit par la métaphysique qu'il essaye d'introduire en son sein. Puisque, une fois que la métaphysique est là, les gens ne peuvent être rien d'autre qu'abattus, en fin de compte. Donc, la force politique et sociale est entièrement anéantie, finalement, par la métaphysique du geste, et cette métaphysique elle-même se retrouve abattue au niveau de la scénographie, qui est quand même une scénographie par l'accordéon, mais aussi par les caisses qui sont disposées sur le plateau. Et c'est une scénographie qui nous ramène d'une certaine manière à des propos de comptoir, à des brèves de comptoir. Moi, j'ai beaucoup pensé au, justement, je me suis dit, c'est pas du tout un hasard que ça se passe au Théâtre du Rond-Point, parce que c'est Jean-Michel Rippe, c'est les brèves de comptoir, c'est aussi d'une certaine manière la petite poésie du quotidien de François Morel, etc. Donc c'est exactement là. Et cette scénographie le rappelle, finalement, en fin de compte, malgré toute la métaphysique qu'on met là-dedans, on est peu ou prou dans un discours de bar.
Ouais, ça a été créé au Festival de Liège, c'était en 2017, me semble-t-il. Oui, c'est ça, 2017. Je vais continuer sur mes réserves, hein, parce que ce soir, je suis comme ça. Je suis humeur chafouine, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Non, il y a quelque chose qui est assez symptomatique de ce spectacle, c'est la voix off dont vous n'avez pas parlé, de Yolande Moreau. Ah oui. Je pense que vous n'avez pas parlé par charité.
Exactement.
Parce que, non, mais je pense que c'est... Non, mais en plus, c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai une sorte d'affection et d'estime. Mais elle représente aujourd'hui Yolande Moreau, depuis quelques années déjà, cette certaine...
Le misérabilisme.
Une sorte de politique du bon sentiment. Je ne dis pas ça contre elle. Il y a des gens qui incarnent des choses comme ça. Elle est employée souvent comme cela. Et le fait est que, donc, elle parle par le corps de l'accordéoniste, on va dire ça comme ça, avec un texte qui n'est quand même pas toujours non plus tellement de haute volée. Et je me suis dit, j'aimerais bien retrouver les émotions que j'avais quand je voyais les spectacles de Rodrigo Garcia, il y a 10 ou 15 ans, où on me balançait des choses politiques très fortes et sociales à la figure, et que vraiment ça me remuait, parfois ça m'insupportait, mais qu'au moins ça me faisait réagir, ça me faisait bouger. Là, il y a quelque chose, au-delà de la performance de David Murgia, évidemment,
oui, on peut pas ne pas être d'accord avec ce qui est dit.
Oui, mais du coup, à quoi ça sert penser, Je pouvais sortir furieux de spectacle de Rodrigo Garcia ou même de votre ami Henri Calédal. On en reparlera bientôt dans cette émission. Mais au moins, ce sont des gens qui s'emparent des mêmes matériaux, souvent. Rodrigo Garcia, c'était le plus évident pour moi. Mais qui donne beaucoup de matière aux spectateurs. Vous voyez ce que je veux dire, Thomas Carla?
Oui, alors après, également, ça m'a laissé complètement sur le bas-côté parce que ce discours-là, comme je disais, est quand même très, très daté. Et justement, on en touche les limites.
C'est une écriture d'aujourd'hui, c'est un peu le problème.
Visiblement, Asciano Celestini date quand même des années 80.
Date, vous voulez dire qu'il est...
J'entends par là.
Il est né dans les années 80
Non, mais c'est tout juste... C'est imputé dans les années 80 parce qu'il est vieux.
Mais ça enregistre le théâtre récit.
On va chercher ça de naissance à ce pauvre garçon.
C'est un registre, le théâtre récit, et puis il y a un petit peu ses poncifs. Et puis même, d'ailleurs, il y a tous les poncifs. Il y a aussi la position, justement du sage un peu délirant comme ça. On l'a vu mille fois.
Et effectivement, je pense que vous parliez de Rodrigo Garcia, c'est pas du tout un hasard si à l'époque où il était directeur du théâtre de Montpellier, il avait marqué sur les marches, il avait fait marquer quelque chose comme si les spectateurs viennent ici pour être contents ou pour être d'accord, c'est que je fais mal mon travail sorte. Et pour moi, c'est exactement le problème, c'est que là, on ne peut que sortir en étant d'accord. Donc non seulement le peu d'espace de pensée qu'on peut avoir à la fin de ce spectacle d'espace de pensée personnelle, c'est de se dire, c'est d'aller dans le sens de ce qui nous est montré. Ce qui est quand même, je pense, l'utilisation inverse qui doit être celle.
Oui, quand je disais que le théâtre ne se portait pas forcément très bien, je ne veux pas charger non plus la marque, mais c'est vrai que si on va au théâtre pour se réconforter, pour se sentir bien, on a eu la même discussion autour du Théâtre du Soleil, ce qui nous a valu quelques volets de bois vert sur les réseaux sociaux.
C'est exactement
mais c'est la même question, enfin, différemment, j'entends bien. Anna Segalevich, je voulais dire un dernier mot.
Oui, parce que moi, ce que j'ai envie de défendre dans ce spectacle, c'est le fait que je trouve que David Murgia n'est pas collé à la vitre dans sa façon d'interpréter ce texte. Et qu'il est quand même...
Je suis tout à fait d'accord avec Anna. Et je pense que ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait qu'il n'interprète pas les personnages, mais que simplement, il leur donne la voix,
c'est le texte,
exactement juste. Et c'est...
C'est la façon dont c'est mis en scène et dont il le fait.
Et effectivement, la direction qui a été choisie, en l'occurrence, par l'auteur. Et on peut réellement rendre hommage à ça.
Voilà, c'est sans effet, c'est pas complètement collé à la vitre. Et puis, il y a une chose que je trouve aussi... quand même réussi, c'est que c'est objectivement un peu sinistre tout ce qui est raconté, et lui il y a la notion de plaisir,
absolument,
de théâtre et de spectaculaire reste là. Et oui, mais c'est pas si simple avec un texte comme celui-là, et donc avec les réserves qu'on peut avoir, le côté outrancier par moments un peu caricatural, pour moi sort quand même un spectacle
Non, mais de qualité, j'ai oui, voulu un peu modérer vos enthousiasmes, et du coup, il a pris cher, mais c'est quand même très bien.
Manifestement, d'ailleurs, alors, on l'a vu qu'en captation, en tout cas, à la fin de cette captation, la réception du public est assez remarquablement joyeuse.
C'était un triomphe.
Joyeuse.
Non, mais ça a été un triomphe partout, et ça a été joué, et même dans sur votre écran en internet, Laïka. Et donc, Alessandro Celestini, il a 46 ans, hein, il est né en 72. C'est la seconde génération, nous apprend une encyclopédie en ligne, la seconde génération du théâtre récit. Donc à voir sur Culture Box jusqu'au 21 mai, me semble-t-il, ou 20 mai, allez-y quoi.
Il y a du temps
pour voir ce spectacle. C'est quand même ce qu'il y a de mieux. C'est le moment, s'il est prêt, du coup de cœur d'Anna Segalevitch pour Dorine. Dorine, David Jason au Théâtre de la Bastille, on en a déjà parlé dans cette émission, mais le spectacle se rejoue en ce moment et jusqu'au 30 janvier au Théâtre de la Bastille. C'est l'occasion d'en parler, Anna.
Oui, c'est un spectacle dont moi je garde un excellent souvenir. On en avait parlé en fait, effectivement ici. Le spectacle s'appelle Dorine parce que Dorine était la femme de André Gorz. Il a écrit un texte qui s'appelle Lettre à D, qui est sorti en 2006. Et puis, ils ont tous les deux décidé de se suicider en 2007. Voilà. Alors, dans ce spectacle, David Jezelson, donc qui a aussi écrit, qui met en scène et qui joue, est avec une comédienne qui s'appelle Laure Matisse. Ils sont tous les deux. Ils sont tous les deux absolument magnifique. Et c'est un spectacle, donc on arrive dans le théâtre, c'est un système qui est trifrontal, où on arrive en fait dans le salon de ce couple. Je crois que ça commence en 2006, dans mon souvenir, le spectacle. Donc un an leur mort. Et donc, on est à la fois conviés dans une forme d'intimité, parce que on sent qu'ils sont chez eux, il y a un tourne-disque, il y a une chaise, il y a un secrétaire, on est complètement autour d'eux, il y a même une partie du public qui est installée au bureau. Donc on est vraiment très très proche, et en même temps, ce qui est très beau, c'est que on est complètement dans leur fiction à eux, et c'est leur histoire qui se raconte, et cette histoire, c'est 60 ans, presque 60 ans, je crois 58 ans d'amour ensemble, où André Gorz, qui était donc philosophe, qui a cofondé le Nouvel Observateur, qui a écrit beaucoup de choses, en fait, a eu des échanges à bâtons rompus et qui ont beaucoup influé sur sa pensée toute sa vie, et c'est l'histoire de cet amour qui se raconte, et aussi l'histoire intellectuelle et politique de toute une époque.
Il y en a qui ne sont pas épargnés, c'est assez drôle.
C'est assez cruel aussi. Et alors c'est un spectacle qui dure une heure, et c'est fou, tout ce qu'on a le temps de vivre en une heure, de moments de très très grande vitalité, de moments de grand silence, et où ils sont comme ça auréolés, enveloppés et protégés tous les deux par leur amour qui est incroyable et qu'on sent. C'est très étonnant comme c'est palpable en scène, l'amour de ces deux êtres. La façon dont David Jezelson aussi met en scène Laure Matisse, on voit que c'est un metteur en scène qui aime une actrice et qui a envie de lui donner une très très belle place.
Ils sont pas pour rien tous les deux dans la qualité de ce spectacle.
Ah oui, ils sont extraordinaires. C'est sûr que ils sont absolument extraordinaires tous les deux. Il y a aussi, on parlait de la simplicité qu'il peut y avoir dans l'adresse des acteurs de La Vie Brève. Là, il y a ça aussi, une façon extrêmement directe et en même temps beaucoup d'élégance. Enfin, c'est très beau. Jean-Christophe, vous vouliez peut-être préciser qu'il y a les lettres non écrites qui vont être jouées.
Oui, effectivement, il y a les lettres non écrites de David Jezelson aussi qui sont jouées les 11 et 12, vendredi et samedi. Là. C'est un principe, alors je sais pas, je les ai pas encore vues, mais le principe c'est de rencontrer pendant la journée des gens qui ont voulu écrire une fois dans leur vie une lettre qu'ils n'ont finalement pas écrite. David Jezelson les rencontre dans la journée et le soir, au Théâtre de la Bastille, met en scène écrit avec eux cette lettre pendant la journée, et le soir met en scène la lettre que ces gens n'ont pas pu écrire.
Beaucoup de raisons d'aller au Théâtre de la Bastille, notamment pour Dorine, évidemment, jusqu'au 30 janvier.
La dispute. France Culture.
The right. Le dernier sujet de cette dispute, on entend déjà rire Jean-Christophe Briançon, c'est Je demande la roue de Stéphane Elliard et Rukyata Ouédraogo, spectacle autobiographique sur le parcours de la comédienne depuis son Afrique natale jusqu'aux scènes françaises.
Il faut que je vous explique cette histoire de route. Ici, quand vous voulez mettre terme à une conversation ou à une visite, vous dites, bon bah, je prends la route. Chez nous, la route, on ne la prend pas. On la demande. C'est plus qu'une forme de politesse. En fait, en demandant la route, on demande aussi que les bénédictions de notre hôte nous accompagnent. En fait, on demande ces bénédictions. Et ton hôte doit te refuser à deux reprises. Parce que s'il te l'accorde dès la première demande, on pourrait croire qu'il voudrait se débarrasser de toi.
Je demande la route. On va entendre Rukyata Ouédraogo. Thomas Corlin commence à nous parler de ce spectacle qu'on peut voir en ce moment au Lucernaire et qu'on pourra voir ensuite au Théâtre de l'Œuvre.
Alors je vais le resituer un tout petit peu donc dans sa forme. Donc c'est un solo autobiographique donc d'une comédienne burkinabé que certains connaissent peut-être d'ailleurs pour ses chroniques sur France Inter. Une scène très sobre, très intimiste, trois rondins, une chope d'eau qui suffisent un petit peu à donc convoquer cet univers des conteurs africains. Sur le ton, on est vraiment donc dans l'oralité effectivement de ces conteurs africains. C'est porté par une écriture très fluide, très efficace. Alors il y a une posture, je sais pas si c'est une posture, mais elle est très naïve voire ingénue et aussi des touches d'un humour léger, mais on n'est quand même pas dans un spectacle comique, et des passages qui sont plus solennels et très bien amenés par ailleurs. Alors, et aussi d'ailleurs je précise, donc parce que ça a son importance dans la pièce, et sur ce que je vais préciser sur la pièce, elle module beaucoup son accent burkinabé selon les situations. Alors il me semble un peu difficile de pas situer ce spectacle dans des, on va dire, des polémiques et des débats très tendus qu'il y a actuellement autour de la question de la décolonisation des arts. Il y a récemment une émission sur France Culture, je crois que c'était Le Signe des Temps, qui est justement relaté, on va dire,
souvent dans cette
émission. Donc de ce débat. Parce que donc Rukyata Ouédraogo derrière ses, pardon, derrière ses sourires et ses petites blagues, ben quand même elle parle de tout ça complètement, hein. Elle se retrouve même, je dirais, au cœur de toutes ces questions. Elle cite même d'ailleurs au cœur de son spectacle Audrey Lorde, qui est une poète militante noire américaine. Et donc, elle signifie là qu'elle a tout à fait conscience de ce que ça veut dire qu'une prise de parole de femme noire burkinabé sur sa propre vie et sa culture, et donc sur une scène française. Et mais par sa candeur qui est totalement désarmante, que je ne pense pas feinte hein, d'ailleurs, bah, elle les dédramatise d'un coup.
Pas feinte,
mais...
c'est même, pardon, c'est sa force.
C'est son
cheval de bataille, quoi. C'est son arme.
Tout à fait. Alors néanmoins, ouais. Je trouve qu'il reste quelques ambivalences. Alors là, je ne sais pas si on a vraiment le temps, mais bon, j'irai plutôt sur les points positifs. Alors d'abord, il y a un petit peu tout. Elle questionne le regard des Français et puis aussi l'histoire française. Alors il y a l'oncle ancien tirailleur pour l'armée française envoyé au Burkina Faso. Il y a le racisme et la nostalgie coloniale de certains Français. Il y a des blagues un peu limites par moments qui se moquent donc de la perception occidentale de la pauvreté. Alors on pense un petit peu d'ailleurs au Petit à Petit de Jean Rouch ou même un petit peu aux Lettres persanes de Montesquieu. Il y a même un passage assez pédagogique où justement j'y vais de loin. Je pèse mes mots.
Alors il y a aussi prépare son one man.
Non, mais il y a un passage pédagogique aussi justement sur le fait que les plus gros dons humanitaires finalement ils sont pas forcément faits par les Occidentaux mais par une sorte de mécénat invisible qui envoie de l'argent donc des immigrés qui envoient de l'argent à leur famille dans le pays. Il y a une critique à double sens de sa culture également, donc il y a les punitions corporelles à l'école primaire qui donc interrogent un petit peu la morale blanche, d'ailleurs elle dit le mot, hein, vraiment, elle s'adresse à son public, les Blancs. Et enfin, donc, il y a un morceau de bravoure dans la pièce qui est quand même l'évocation de l'excision des femmes, qui est typiquement un sujet qui est extrêmement difficile à aborder entre personnes avec des personnes qui ne l'ont pas vécu. Et elle arrive à le faire d'abord par une astuce désopilante que je vais pas dévoiler ici, mais surtout d'une manière qui est ni univoque, ni moralisatrice, et surtout très digne. Et en expliquant qu'elle a pas digéré qu'elle a digéré le trauma, qu'elle a construit sa vie autour de ça, y compris sexuelle, et qu'elle n'a besoin ni d'être réparée ni sauvée. Je vais juste j'y reviendrai.
Vous préciserez dans un deuxième temps parce que pendant ce temps, Anna Segalini fait des mimes à Jean-Christophe Briançon qui se rappelle plus de l'astuce désopilante. Jean-Christophe Briançon.
Bon bah
sentiment
après
sur le
avoir évoqué Montesquieu, moi je vais incarner, je vais me permettre d'incarner du coup plutôt les réserves sur ce spectacle.
Mais hein. Thomas en avait peut-être. Alors on y reviendra aussi.
Oui oui. J'en doute pas, mais c'est vrai qu'il nous reste peu de temps. Mais bon, moi je pense que c'est un spectacle qui avant tout pâtit de son non-choix entre le fait de vouloir être un spectacle d'une certaine manière humoristique. C'est d'ailleurs marqué, c'est un des mots qui a marqué sur l'affiche, en gros, il y a marqué humour, point d'exclamation. Bon, et le fait d'être un spectacle de conte, finalement, un récit de vie, quoi. Et alors que, Et tout, dans la forme et dans le texte, nous ramène à cette espèce d'indécision. Parce que, bon, alors, dans le texte, le spectacle commence en disant, commence par juste ces mots, j'ai 8 ans. J'ai 8 ans en Afrique. Bon, alors, on sait qu'à partir de ce moment-là, on va être dans un récit de vie. Dans un récit de vie qui est assez raccord avec la scénographie, puisque, comme le disait Thomas, c'est une scénographie qui nous ramène quand même en tout cas, à l'imagerie populaire du conte africain, de la manière de faire du conte africain. Bon, donc là, à ces instants-là, on est dans le conte. Mais ensuite, dans l'écriture, petit à petit, finalement, on ne finit par être dans rien d'autre que le récit chronologique de sa vie, récit chronologique qui sera haché, évidemment, de manière assez logique, hein, haché par des événements, par des séquences, qui nous ramènent là, à chaque fois, par le biais de ces séquences, à, d'une certaine manière, le spectacle à sketch des années 90. Et donc, nous éloigne à cet instant-là du conte, pour nous ramener à quelque chose qui ramène là aussi donc au sketch, et ceci étant renforcé aussi par une forme, en tout cas par une mise en scène, à coup de lumière, d'extinction des lumières, de rallumage des lumières, etc., qui hache le tout pour, là encore, nous ramener d'une certaine manière à la forme humoristique classique du spectacle à sketch, un petit peu daté même.
Après, les années 80, les passants des années 90,
voilà, on progresse. Je pense que là, il y a une indécision dans ce fait de vouloir être à la fois le spectacle un peu bon enfant pour famille, le récit de conte, le récit de vie, et puis le fait de vouloir être effectivement aussi quelque chose d'un petit peu politique.
Est-ce que c'est pas une astuce d'avancer masqué pour avoir un propos politique?
Si c'est une astuce, en fin de compte, je pense que c'est un petit peu dommage, parce que là où le spectacle purement humoristique aurait pu permettre à la dimension politique d'être réellement caustique, le conte, en revanche, nous amène à lisser un petit peu ce propos caustique pour finir par faire quelque chose de beaucoup plus bien-pensant, ou qui a l'air beaucoup plus bien-pensant que ce que finalement cette jeune fille a en tête, manifestement. Donc c'est dommage. Si c'est une astuce, à mon sens, elle lisse la causticité du propos.
Je pose des questions parce que moi, je n'ai pas encore vu ce spectacle. Anna Segalevitch.
Oui, c'est un spectacle, c'est pas évident d'en parler en effet, parce que il y a beaucoup de choses.
Vous n'avez pas grand chose à dire, je vous rappelle.
Ah oui, alors moi aussi j'ai quand même des choses à dire.
Je vous connais, Anna.
Le mélange des genres est effectivement par moments un petit peu maladroit. Entre en effet, le conte, il y a un côté griot, et puis je vais pas revenir sur ce que vous avez dit, je suis assez d'accord. Et malgré tout, moi c'est un spectacle qui m'a plu vraiment, parce que je trouve que elle a moi j'étais très heureuse de passer une heure et demie avec elle, en fait, parce que je trouve qu'elle a un charme fou, cette fille, qu'elle a une façon d'être, elle est rayonnante en scène, et je pense qu'elle est très maligne, mais pas, je dis pas ça dans le sens négatif, je dis que elle fait avec ce qu'elle est, que elle a tout à fait conscience un petit peu de ses limites, et que c'est en souriant qu'elle dit les choses, et que elle rit elle-même, et il y a une complicité avec le public, et elle raconte son histoire avec beaucoup de légèreté, de fraîcheur et une candeur qui, à mon avis, son arme. Et elle est complètement ce qu'elle est, c'est assumé, c'est sans filtre, elle s'adresse au public. Alors oui, il y a des choses qui vont pas. Bon, par exemple, moi je suis pas d'accord avec vous, Thomas, sur l'histoire du clitoris. Je trouve que ça arrive comme un cheveu sur la soupe, si je puis dire.
C'est l'image qui est
voilà, bon, et je trouve que l'articulation n'est pas toujours réussie, en fait, d'un passage à l'autre. Mais ça se tient quand même. Et elle a une façon d'être en scène, une joie d'être en scène qui est communicative. Un spectacle seul en scène pendant plus d'une heure et demie, je veux dire, ça peut, ça peut paraître long. Ça ne m'a pas du tout paraître long. C'est une sorte de...
Tout ça, on a parlé que d'interprètes qui ont du plaisir à être en scène et qui en donnent aux autres.
Oui, c'est déjà pas mal, quoi. Enfin, hein, elle a quelque chose, cette fille.
Dernier mot, Thomas Corlin.
Oui, dernier mot. Ben, en fait, je pense que là où ça coince le plus, en dehors du formellement du spectacle, qui effectivement a des tonnes de défauts à plein de niveaux, mais c'est pas très très grave, parce qu'effectivement c'est bien emballé par une certaine, on va dire, une sympathie très communicative.
Elle est hyper sympathique, elle a un capital sympathie énorme.
Néanmoins, le problème dans le positionnement et dans l'adresse au public, parce qu'elle dit donc en permanence, et puis c'était le cas le soir où j'y suis allé, 95% du public était blanc, et il y a toujours cette position qui est celle donc d'une comédienne racisée, burkinabé, qui à la fin limite, comment dire, nous remercie beaucoup trop, presque en nous disant je suis là, je suis contente, j'ai accompli quelque chose grâce à la France. Et c'est un peu gênant, je trouve que ça m'a rappelé certaines critiques qu'avait fait Diane Scott dans la revue Incise, qui est édité par le théâtre de Gennevilliers, sur certains spectacles de Mohamed El Khatib aussi, qui d'une certaine façon, par une sorte de rituel, un petit peu de sacrifice à une culture dominante.
Vous ouvrez le débat à 19h50.
Oui, bien sûr, bien sûr. Là, il y a beaucoup de choses à dire quand même.
Mais c'est là où il y a une énorme ambivalence, je trouve, sur le spectacle. Mais bon, après, on ne va pas incriminer Rukyata Ouadraogo, qui a fait un spectacle charmant, c'est sûr.
Bon, on ne va pas ouvrir le débat là-dessus.
Non.
Enfin, on l'a déjà plusieurs fois ouvert, on le rouvrira à nouveau. Mais voilà, c'est une piste de réflexion qui nous était offerte. In extremis, je demande la route de Stéphane Elliard et Rukyata Ouadraogo. C'est au Lucernaire, donc jusqu'au 12 janvier. Mais ensuite, ce spectacle sera montré au Théâtre de l'Œuvre à partir du 30 janvier et jusqu'au 24 avril. Sarah Dion nous a rejoint, comme chaque soir, pour ce moment que vous attendez tous, le jeu de la dispute. Sarah, vous allez d'abord nous rappeler la question du jeu de vendredi soir et nous donner sa réponse.
La question était: quel film documentaire consacré aux OGM est réalisé par Marie-Monique Robin et sorti en 2008? Et la réponse est Le Monde selon Monsanto.
Ce soir, nous avons gagné des invitations pour un spectacle dont on va parler d'ailleurs la semaine prochaine, me semble-t-il, Erwart, ou Les derniers jours de Friedrich Nietzsche. C'est une mise en scène de Laurent Fréchuret, un texte d'Hervé Blotsch. Des places à gagner pour vendredi 11 janvier à 21h au Théâtre du Rond-Point à Paris. Quelle est la question?
Quelle récompense Vincent Dedienne a-t-il reçu pour son seul en scène s'il se passe quelque chose?
Bon, il faut dire que Vincent Dedienne joue dans ce spectacle, hein, chose que je n'avais pas dit. On comprend mieux la question. Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions, mais bien sûr aussi vous abonner au podcast. Rendez-vous demain à 19h pour une dispute consacrée à la musique. Nous serons en compagnie de Sophie Rosemont, Joseph Gosne et Hugo Cassavetti. Sur nos platines, The X de Richard Swift, The Lily White Session de Riley Walker et Springsteen on Broadway. Sur Netflix et chez Columbia, et puis il y aura un coup de cœur, pas le moindre, du coup, Hugo Cassavetti pour le Glastonbury 2000 de David Bowie.